Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Tout de suite, l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maïlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. Près de 80 000 copies du baccalauréat étaient toujours manquantes ce matin et alors que certains élèves risquent donc de ne pas avoir leurs résultats comme prévu demain, les jurys de délibération doivent se réunir aujourd'hui en dépit de la grève des professeurs correcteurs. Après avoir indiqué en début de semaine vouloir généraliser le bracelet électronique dans la lutte contre les violences conjugales, un dispositif jamais testé en France malgré son inscription dans la loi, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, devrait se rendre prochainement en Espagne où ce dispositif anti-rapprochement a fait ses preuves et parvient à sauver des vies. Et puis le Kremlin a reconnu ce matin que le sous-marin russe, dont 14 membres d'équipage ont trouvé la mort lundi dans un incendie, est bien un modèle à propulsion nucléaire. Moscou, qui après avoir été accusé de chercher à dissimuler les détails de la catastrophe, assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger le réacteur. Enfin, 12h45, Maïlys, ce sera la grande table d'été.
Oui, on va parler d'identité avec l'exposition du Macval Ligne de vie, puis nous ferons le portrait de l'astrophysicienne Fatoumata Kébé.
Merci et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Si dans le meilleur des mondes possible, les lycéens ne devraient sans doute pas avoir à être pénalisés par un conflit qui ne les concerne qu'indirectement, la grève des correcteurs du baccalauréat après celle des surveillants aux épreuves n'en marque pas moins un profond désaccord dans le monde de l'éducation aujourd'hui quant à la réforme des lycées voulue par le gouvernement. Alors depuis le début de la semaine, le ministre Jean-Michel Blanquer le répète inlassablement et sur tous les tons, tous les élèves auront bel et bien leurs résultats comme prévu demain. Et pour s'en assurer, après avoir menacé les grévistes de 15 jours de retenue de salaire, hier on a appris qu'un dispositif exceptionnel serait mis en place en cas de copie manquante, la prise en compte du contrôle continu. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors on le voit, le ministère multiplie les initiatives pour éviter que cette grève ait la moindre conséquence, preuve que l'assurance de Jean-Michel Blanquer cache une certaine fébrilité. Pour cause, Hakim, ce matin encore, près de 80 000 copies étaient toujours manquantes.
Et oui, c'est une véritable bataille de communication qui se joue actuellement entre les syndicats et le ministère. 6 rue de Grenelle, on parle pour l'instant de 80 000 copies qui n'auraient pas été rendues hier soir. Un chiffre réactualisé devrait tomber dans les prochaines minutes. Du côté des enseignants correcteurs et de ceux qui sont dans les jurys, on estime que 27% des candidats risquent d'être pénalisés quant à l'obtention du bac. Un chiffre que conteste le ministère de l'Éducation que nous avons joint ce matin. En effet, au-delà des notes qui sont pas arrivées encore, les membres du jury non grévistes pour l'instant, refuse d'appliquer les mesures prônées par Jean-Michel Blanquer, comme se baser sur les notes du contrôle continu pour l'obtention du bac, un dispositif qui, faut-il le rappeler, existe déjà, par exemple, lorsqu'un correcteur perd ses copies, voire de passer au rattrapage pour ceux qui n'auraient pas eu des notes suffisantes au contrôle continu. Des mesures illégales, selon les syndicats et les enseignants, d'un point de vue juridique, ce qui pourrait déboucher très rapidement sur les actions en justice de la part des parents d'élèves, d'autant que le ministère de l'Éducation refuse toujours de reporter les résultats du bac demain. Rappelons que les académies les plus touchées sont celles de Paris, Créteil, Versailles, Lyon et Toulouse.
Merci Hakim Kasmi. Lundi dernier, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'alarmait du nombre de féminicides depuis le début de l'année. Au total, et depuis le 1er janvier, 70 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Une liste morbide qui, dès hier, est venue s'allonger encore un peu plus après qu'on a appris le décès en Seine-Saint-Denis d'une jeune femme enceinte de 3 mois à qui la veille avait déposé une main courante après des violences conjugales. L'homme soupçonné d'avoir tué sa compagne et âgé de 22 ans a été placé en garde à vue. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
Chaque année, ce sont pas moins de 130 femmes qui meurent donc victimes de féminicide conjugal et les chiffres, Wafia, ne cessent d'augmenter.
Oui, 71 femmes, vous l'avez dit, sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le mois de janvier. C'est un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes, puisqu'en 2017, il y a eu 130 féminicides et en 2016, 123.
Alors évidemment, la question que tout le monde se pose est de savoir comment éviter ces drames. En l'occurrence, une loi existe pour éloigner les conjoints violents, ce qui manifestement n'empêche pas donc les meurtres de femmes de se produire. Est-ce que la législation pose problème aujourd'hui ?
Les lois existent, et notamment celles proposées en 2018 par Marlène Schiappa sur les violences faites aux femmes. Mais selon les associations, le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Je vous donne deux exemples, Thomas. Dans chaque commissariat, il devrait y avoir un référent conjugal. pour les violences conjugales. Dans les faits, le manque de moyens ne permet ni la formation, ni la mobilisation de ces agents spécifiques. L'autre exemple, c'est l'utilisation de l'ordonnance de protection. Car très souvent, les femmes ne portent pas plainte ou elles retirent leur plainte parce qu'elles se sentent menacées. Cette ordonnance permet au juge des affaires familiales de demander l'éloignement du conjoint violent sans forcément que la femme ne porte plainte. Donc le magistrat peut évaluer le danger et décider de mettre la victime à l'abri. Ce dispositif fonctionne, mais il est encore très peu utilisé. Et d'après les associations, si les femmes ne portent pas plainte, les juges hésitent à saisir eux-mêmes la justice. En France, 1300 ordonnances de protection contre 20 000 en Espagne.
Alors on l'a bien compris, des solutions existent malgré tout pour tenter d'éviter ces drames. D'autres sont probablement d'ailleurs à développer ou même à créer. Et puis on pourrait également s'inspirer de nos voisins et tout particulièrement de l'Espagne. Vous l'évoquiez là-bas, Wafia, les chiffres des meurtres de femmes ont baissé de manière significative depuis 10 ans.
Absolument, on en est à 71 féminicides en France depuis le début de l'année, alors qu'en Espagne on atteint le chiffre certes dramatique mais de 30 féminicides. Nos voisins espagnols se sont emparés collectivement de la question des violences faites aux femmes. Il existe là-bas des tribunaux spécifiques dans lesquels chaque magistrat, chaque policier est formé à l'écoute et à l'accueil des femmes victimes. Avec des délais très courts, donc une instruction de 72 heures ou des procès rapides de 15 jours seulement. Il y a aussi le bracelet anti-rapprochement, c'est un bracelet électronique qui est porté par le conjoint ou ex-conjoint violent. Il avertit la police si cette personne s'approche trop près de sa victime. Il devrait d'ailleurs être généralisé en France, comme l'a annoncé Nicole Belloubet ce lundi. La ministre de la Justice se rendra justement en Espagne dans les semaines qui viennent.
Merci Wafia Kenich. Et puis je précise qu'un collectif de familles et de proches de victimes de féminicide a appelé un rassemblement à Paris samedi prochain. Ce sera à 17h, place de la République. Ce sera le spectacle d'une vie, a-t-il tonné hier sur Twitter. En ce jour de l'indépendance aux États-Unis, Donald Trump a promis les plus grandes festivités du 4 juillet de l'histoire de la capitale fédérale américaine. Exhibition de chars d'assaut, démonstrations aériennes, spectacle pyrotechnique, sans oublier le clou du spectacle, une allocution du président des États-Unis sur les célèbres marches du Lincoln Memorial. Bref, une fête nationale bien peu ordinaire, loin des traditionnelles parades de fanfares colorées et autres joyeux barbecues entre amis, sans compter que le 4 juillet est habituellement une journée de trêve qui voit certes les Américains brandir partout le drapeau national, mais autour de célébrations totalement apolitiques au-delà de tout clivage partisan. Et c'est ainsi que ce bouleversement de l'ordonnancement de la fête aujourd'hui fait grincer des dents, notamment du côté de l'opposition. Certains élus démocrates allant jusqu'à mettre en garde le locataire de la Maison Blanche contre la tentation d'un meeting partisan et télévisé, en clair de transformer une journée d'union nationale en une action politicienne de campagne. Et puis l'autre polémique concerne le coût de ces festivités, dont la somme n'a pas été révélée, mais qui devrait dépasser les 2,5 millions de dollars, puisque c'est d'ores et déjà le montant de la contribution réclamée au service des parcs nationaux pour l'organisation de l'événement. Les parcs dont le budget, rappelons-le, a déjà été amputé par l'administration Trump de dizaines de millions de dollars. Les États-Unis toujours ont empêché hier l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une condamnation unanime sur l'attaque meurtrière la veille en Libye d'un camp de détention de migrants. Aucune explication n'a pu être obtenue auprès de la mission américaine sur les raisons d'un tel blocage. Le projet de texte, sans accuser d'ailleurs une partie ou une autre, se bornait pourtant à appeler à un cessez-le-feu et au retour à un dialogue politique. Alors après ce carnage attribué par le gouvernement d'Union nationale installé à Tripoli aux forces rivales du maréchal Haftar, carnage qui a fait au moins 44 morts et plus de 130 blessés, plusieurs ONG ont fait part de leur effroi et appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante. L'Union européenne a à son tour condamné, je cite, une horrible attaque, même si en l'occurrence ce drame est aussi une illustration des conséquences morbides de la politique de verrouillage des frontières européennes aux candidats à l'immigration vers le vieux continent. À ce titre, je vous propose d'écouter Pierre Mandiara, directeur adjoint des opérations chez Médecins Sans Frontières. Il est interrogé par Sébastien Sabiron.
Il y a ce bombardement, mais il y a aussi les mauvais traitements, il y a aussi la torture. Il faut savoir qu'à Beni Walid, où on travaille, et qui est un espèce de hub du trafic d'êtres humains et de la torture en Libye, chaque mois, une association libyenne procède à l'enterrement de 50 cadavres de migrants qui sont retrouvés dans les rues. 50 tous les mois. C'est ça la réalité de la situation en Libye, rendue possible par le soutien aux gardes-côtes libyens, par les pays de l'Union européenne, car lorsque les exilés sont ramenés en Libye, ils se trouvent dans des prisons qui, en fait, sont en communication avec les réseaux de trafiquants. C'est un drame humain, c'est aussi un drame politique. Les dirigeants de l'Union européenne n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe et de qui sont leurs partenaires en Libye.
Voilà, Pierre Mandiara, directeur adjoint des opérations chez Médecins Sans Frontières. Il répondait à Sébastien Sabiron. La fin, ou presque, du grand mercato européen. Hier, l'eurodéputé socialiste italien David Sassoli a été élu à la présidence du Parlement européen pour un mandat de 2 ans et demi. Une élection qui devrait faciliter l'approbation de la désignation de l'Allemande Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. Pour être confirmée dans ses nouvelles responsabilités, celle-ci devra en effet obtenir la majorité absolue des 751 députés européens. Le vote est prévu le 16 juillet. Hasard sans doute de l'actualité. C'est également hier que la Commission européenne a finalement renoncé à ouvrir une procédure disciplinaire contre l'Italie au vu des mesures prises par la coalition populiste au pouvoir pour tenter de limiter son endettement croissant et ainsi se conformer aux règles budgétaires de l'UE. Quand un sommet peut en cacher un autre, à partir d'aujourd'hui pour 2 jours, s'ouvre à Poznan en Pologne un nouveau sommet sur l'intégration des Balkans occidentaux à l'UE. Chaque année, cette rencontre réunit les chefs d'État et de gouvernement de 10 pays européens et de 6 pays candidats. L'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie. Des pays dont l'adhésion à l'Union semble toujours très hypothétique, notamment en raison de l'opposition de la France, au risque donc que les Balkans lassés finissent à terme par regarder ailleurs. Les précisions de notre envoyée spéciale Isabelle Labéry.
Les négociations patinent et les critiques à l'égard des candidats se suivent et se ressemblent. Lutte insuffisante contre la corruption et le crime organisé, déficit démocratique, en bref, mention peut mieux faire. Avant les élections européennes, le sujet de l'adhésion a volontairement été mis sous les teignoirs pour ne pas raviver les divisions entre progressistes et populistes, car ce sont principalement les Hongrois, Italiens ou Polonais qui défendent un élargissement. Après le scrutin, les dirigeants des Balkans espéraient une position plus clémente de Paris et Berlin notamment, qui bloquent toute évolution. Peine perdue, à Poznan, les dirigeants reposeront donc leurs conditions, mais ils essaieront aussi de faire patienter leurs partenaires, de les dissuader de regarder ailleurs, vers la Russie notamment, très présente dans les Balkans, qui entretient des liens étroits avec ses frères orthodoxes, vers la Turquie, qui cible les populations musulmanes, finance des mosquées en Bosnie et offre des bourses d'études, ou encore vers la Chine, qui investit dans les autoroutes et les chemins de fer de toute la région pour ses nouvelles routes de la soie. Aucun de ces États, évidemment, ne sabote ouvertement le processus d'adhésion à l'Union européenne, mais les Balkans peuvent très bien devenir des chevaux de Troie et déstabiliser l'unité de l'Union. La confiance, en tout cas, n'est plus là. Selon le baromètre des Balkans l'an dernier, 26% des citoyens estimaient que leur pays ne rejoindrait jamais l'Union européenne.
Parce que l'accident n'aurait sans doute pas manqué de raviver en Russie le souvenir de la tragédie du Koursk qui, en août 2000, avait coulé avec 118 hommes à bord, traumatisant profondément le pays, au point même de jeter une ombre sur le premier mandat de Vladimir Poutine, élu quelques mois plus tôt et dont la gestion de l'affaire avait été vertement critiquée. Moscou avait préféré cette fois-ci ne pas trop tarder à révéler la catastrophe. Mardi, le Kremlin informait que la veille, l'incendie d'un sous-marin dans les eaux de l'Arctique avait coûté la vie à 14 membres d'équipage. Mais pour le reste, le mystère restait entier et en particulier s'agissant du type de sous-marin concerné, la version officielle se contentant d'évoquer un appareil d'exploration scientifique en eau profonde. Alors ce matin, les autorités russes ont finalement consenti à donner davantage de précisions. En l'occurrence, le ministère de la Défense a reconnu que le sous-marin était un modèle à propulsion nucléaire, l'AS-12, supposé être l'appareil le plus furtif de toute la flotte russe, tout en assurant que le sinistre n'avait pas endommagé son réacteur, à tel point d'ailleurs que la remise en service du sous-marin constituerait désormais une priorité. Les précisions à Moscou de notre correspondant Claude Brouillot.
Remettre le submersible en état de marche aussi vite que possible. Les ordres de Sergueï Shoigu, le ministre russe de la Défense, sont on ne peut plus clairs et ils traduisent bien l'importance que revêt l'AS-12 Locharik, en version modernisée donc, selon les autorités russes, pour continuer à scruter le fond des mers et océans au bénéfice de la marine nationale. Quant aux circonstances de l'incendie, le ministère de la Défense assure que le réacteur nucléaire du sous-marin n'a jamais été touché par les flammes. Selon la version officielle, le sinistre a été contenu dans le compartiment à batterie grâce au sacrifice des sous-mariniers transformés en soldats du feu et dont 5 seulement ont pu échapper aux fumées toxiques dans l'habitacle. 3 jours après l'accident, le plus dommageable en vie humaine dans la mer de Barents depuis la catastrophe nationale du Koursk en 2000, 2 questions demeurent dans la presse indépendante russe aujourd'hui. les sous-mariniers, dont certains étaient des civils, avaient-ils suffisamment de formation pour lutter contre ce type d'incendie? Et surtout, quelles étaient réellement les missions du submersible dans une zone territoriale que la marine russe connaît pourtant déjà parfaitement?
Au Japon, les autorités multiplient depuis hier les mises en garde en raison des risques extrêmes de nouvelles coulées de boue et d'inondations dans le sud-ouest du pays où s'abattent des pluies torrentielles qui ont déjà fait 2 morts et plusieurs blessés. Au total, plus 1 million de résidents ont été invités à quitter leur domicile. On termine avec un mot de météo, journée estivale avec du soleil cet après-midi sur l'ensemble du territoire. Attention toutefois au risque d'ondées possibles sur les reliefs. Quant aux températures, en hausse, elles afficheront entre 24 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.